Jusqu'à 9h, l'invité de France Inter est écrivain, membre de l'Académie française, auteur d'un rapport remis mardi consacré aux bibliothèques. Bonjour Éric Orsenna.
Bonjour Monsieur Demorand.
Et merci d'être là au micro d'Inter. Ce rapport est l'émanation d'un constat et d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le tissu des bibliothèques est dense en France, on va le voir. Mais les horaires d'ouverture sont tels qu'il est parfois difficile de trouver une bibliothèque ouverte quand on a du temps libre. Ce qui est ballot pour le dire très poliment. Mais c'est assez rare, et c'est la première question que j'aimerais vous poser, qu'une politique culturelle soit initiée sur un constat aussi empirique.
Ben, il faut d'abord, ce qui est assez rare en France, évaluer les choses. Et puis ne pas s'en satisfaire quand ça marche pas. Depuis des décennies, on sait que nous sommes très très en retard dans l'ouverture des bibliothèques. Et qu'en général, elles sont ouvertes quand on n'a pas la possibilité d'y aller. C'est-à-dire, elles sont fermées le soir, elles sont fermées le dimanche. Or, la bibliothèque, c'est un lieu absolument clé de la lecture, avec les librairies, bien sûr, avec l'éducation, bien sûr. Et la lecture, il faut le rappeler quand même, c'est l'émancipation par excellence. Et alors, j'ai regardé, bien sûr, l'étymologie d'émancipation. C'est passionnant, parce que ça vient du latin « manu capare », c'est-à-dire que dans le marché aux esclaves, vous choisissiez votre esclave en lui tenant la main. « Manu capare ». C'est-à-dire que émanciper, ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir les esclaves. C'est-à-dire que sortir de l'esclavage, c'est la lecture. Et la lecture émancipe. Donc, tous les moyens pour faire lire des êtres humains accroissent leur humanité. Alors c'est pour ça qu'il faut faire un effort énorme dans les classes. Je vous rappelle quand même que en classe de 6e, il y a un petit Français sur 5 qui maîtrise pas la langue. Je vous rappelle que il y a 2,5 millions de Français qui n'ont pas la capacité d'être à l'aise avec la langue. On appelle ça l'illettrisme. Donc vous voyez toutes ces questions. Et d'ailleurs, la très grande majorité de ces gens-là sont des gens qui ont des parents qui parlaient français. Donc vous voyez, cette bataille-là, c'est une bataille pour l'émancipation.
Qu'est-ce qui se joue dans une bibliothèque, Éric Orsenna? Quel rapport au livre, quel rapport à la lecture, quel rapport à la vie, je sais pas, artistique, esthétique, intellectuelle commune, vécue en commun?
Alors, ce que nous avons découvert avec Noël Corbin, qui est inspecteur général et qui est le co-auteur du rapport, c'est que nous ne connaissions pas les bibliothèques. D'abord, il y en a 16 500 en France, des grandes, des très grandes, des grandes médiathèques, et puis de toutes petites, 20 mètres carrés, dans une commune assez
isolée. Autant que des bureaux de poste.
Autant que des bureaux de poste, qui sont 17 000. Donc c'est le lieu de présence culturelle. Et quand je dis présence, c'est le cœur de l'affaire. Ce ne sont pas seulement des lieux de livres, parce que une personne sur deux, sur les 27 millions de Français, c'est 27 millions de visites chaque année, la moitié, c'est pas pour emprunter un livre. Mais on est en proximité d'un livre. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les bibliothécaires qui ont ce métier-là, bien sûr, gardent l'essentiel de leur métier du livre. Ils sont 38 000 et salut à eux. Mais ils ont étendu leur offre. Parce que vous savez, il y a une phrase insupportable à entendre, c'est quand quelqu'un dit « le livre, c'est pas pour moi ». Le musée, c'est pas pour moi. La musique classique, c'est pas pour moi. Donc, au lieu d'avoir une politique méprisante de l'offre, en disant, si tu n'aimes pas Rembrandt, mais si tu aimes le street art, t'es rien du tout, alors ils offrent ce qui correspond à la demande des gens. Et petit à petit, on se rapproche du livre.
Comment on fait, alors, pour les ouvrir, les bibliothèques, 7 jours sur 7, éventuellement, tard le soir? Alors, comment on fait, Éric Orsenna?
Alors, il faut savoir très précisément quelle est la responsabilité de chacun? La première responsabilité, c'est celle de l'État. Parce que c'est l'État qui gère directement les bibliothèques universitaires. Et on n'a pas du tout investi suffisamment dans les universités, en se donnant une ambition d'une classe d'âge à l'université, c'est parfait. Mais on n'a pas donné les moyens. Et notamment aux bibliothèques universitaires. Ce qui fait que quand vous êtes étudiant à Paris, par exemple, qui est un très très mauvais exemple, eh bien vous devez faire des heures et des heures de queue pour avoir une place à la bibliothèque. Donc c'est insupportable, premièrement. Et deuxièmement, l'effort, c'est fait par les municipalités. Donc l'État ne peut pas complètement se dédaigner ça et se retirer de sa responsabilité. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour qu'il y ait une ligne d'État pour aider les municipalités qui déciderait d'ouvrir plus. Et après des arbitrages saignants et l'appui direct du président de la République, nous avons obtenu 8 millions. C'est peu, mais c'est déjà pas mal.
Et on va pouvoir ouvrir combien de bibliothèques sur
Alors,
une enveloppe pareille ?
Il y a des tas de projets qui sont déjà lancés et qui vont être examinés par les directions régionales de l'action culturelle. Il y a plusieurs dizaines de projets qui sont déjà lancés. Et donc, vous savez, on peut pas donner une règle commune de Dunkerque à Nice.
Oui, nous, ouvert de 8h à 22h, 7 jours sur 7, c'est comme ça et pas autrement.
Il y a une association formidable qui s'appelle le Bureau des Temps, qui demande aux gens à quel moment ils veulent que ça soit, que leur bibliothèque soit ouverte. Et la plupart disent le mardi après-midi, on s'en fout. Le jeudi après-midi, on s'en fout. Mais dans des endroits, ça peut être le soir. Dans d'autres, c'est le dimanche. Mais le matin ou l'après-midi. Si c'est le marché, c'est peut-être le matin, etc. C'est-à-dire que ma conviction profonde, moi j'ai donné toute ma vie au service de l'État, hein, enseignant, conseil d'État, etc. Mais donc j'aime l'État et je respecte l'État et je sais son importance. Mais je suis pas du tout jacobin. C'est-à-dire une seule mesure pour la France entière, alors que c'est la responsabilité des élus. Non, c'est les élus qui décident. Et ça marche, une ouverture, quand il y a une vraie conviction des élus. Et donc, et c'est pas du tout lié à la taille. Vous avez des grandes villes comme Paris qui sont très mauvais élèves et des petites quand il y a à la fois l'investissement de l'élu et puis les personnels qui s'approprient parce que...
Et les bénévoles.
Et alors, ce qui est passionnant, c'est que...
Vous avez... Clé de voûte du système.
Alors, vous avez trois catégories de personnages. Au début, est absolument nécessaire, les 38 000 fonctionnaires. Et vraiment, merci à eux. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les emplois aidés, que nous préférons appeler les emplois aidants, c'est-à-dire qui encadrent. Plus les étudiants. Dans l'État d'autres pays, c'est les étudiants qui gèrent une grande partie des bibliothèques et qu'on appelle les moniteurs étudiants. Il y en a que 4 000. J'ai vu la ministre de l'enseignement supérieur, on va essayer de multiplier par 5, par 10. Et puis, pourquoi pas le service civique. Et la troisième catégorie essentielle, c'est les bénévoles. Ils sont plus de 80 000. Alors, on en connaît des associations magnifiques, celles de Jardin, Lire et faire lire, ou Lire ses livres, en prison. Imaginez que nous avons visité Fleury-Mérogis. Sans ces associations, les détenus ne pourraient pas lire. Avec des trucs complètement fous. C'est-à-dire, il y a, par exemple, à Fleury, il y a des bibliothèques formidables qui sont utilisées qu'à peine 10%. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas suffisamment de gardiens pour y conduire les détenus. Alors, si en prison, on n'a pas la possibilité de lire, de s'émanciper, à quoi ça sert ?
38 heures d'ouverture par semaine pour les bibliothèques à Paris. C'est bien ça, le chiffre, Éric Orsenna.
Oui,
New York, 88 heures d'ouverture hebdomadaire. Londres, 78 heures. Vous disiez Paris est mauvais élève. Comment on explique une telle différence ? Elle est colossale.
Mais d'abord, ce qui est frappant, c'est qu'en France, on n'évalue pas. C'est-à-dire, on ne dit pas les chiffres. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation nationale. Maintenant, on dit les chiffres. Donc, il faut dire les chiffres. Donc, voilà, il y a des villes qui sont bonnes élèves et d'autres dans domaine. Et c'est pour ça qu'on propose une sorte de label, vous savez, comme il y a les villages fleuris, ben on mettra à l'entrée des villes un livre, deux livres, trois livres, ou zéro livre si vous n'aimez pas les livres. Et donc, ces questions-là. Et comment on explique ça ? C'est que il faut décider. Et c'est pour ça qu'un rapport, s'il est bien fait, il pose la question typiquement politique, c'est-à-dire, c'est possible. Alors que l'administration, elle vous répondra toujours, c'est compliqué. Et donc, il faut dire à l'administration qu'il y a du possible et qu'il y a une obligation de résultat. C'est pour ça qu'on a fait ce rapport et que, honnêtement, ce rapport a un peu chamboulé parce que l'administration disait « mais comment c'est nous, mais ça va très bien, etc. » Alors, je précise que ce rapport a coûté quand même très très peu d'argent puisque mon coût à moi, c'est 305,27 €.
Oui,
pour 4 mois. Donc voilà, c'est, donc c'est plutôt
et pour autant de livres, c'est formidable. Ouais, je voulais tout de même, Éric Orsenna, vous poser une question. Ce n'est pas parce qu'une bibliothèque est ouverte, c'est pas parce qu'on en pousse la porte qu'on y va. Les inégalités sociales, les inégalités culturelles, les inégalités d'accès aux livres font quand même qu'il y a des portes symboliques qui restent très dures à pousser, non ?
Si la bibliothèque était vue uniquement comme la cité du livre, on ne pousserait pas la porte. Si on sait que c'est un endroit de vivre, un endroit de chaleur, où on découvre toutes sortes de services, Par exemple, l'appui au numérique. Par exemple, l'apprentissage des langues. Par exemple, des services sociaux. Par exemple, de l'aide à l'emploi. Par exemple, pourquoi pas de la danse. C'est ce qu'on a vu partout.
Avec des centres culturels.
Des centres de présence, de services publics culturels. Et de chaleur. Parce que dans beaucoup d'endroits de centre-ville, vous avez des déserts. Et qu'est-ce qui reste allumé? C'est la bibliothèque. C'est vraiment... c'est des maisons de l'humain. S'il n'y avait pas un manque de notre langue française, on dirait que c'est les maisons de l'homme. C'est là où on accroît son humanité en soi, quelles que soient les portes ouvertes. Et encore une fois, je voyais le patron de Beaubourg. Il disait qu'il distribuait à la bibliothèque, à la BPI, il distribuait des billets de musée gratuits parce que des gens, ils ont le réflexe d'entrer dans une bibliothèque qu'on appelle maintenant médiathèque, ce qui calme une sorte de dédain culturel et social. Et pourquoi pas? Voyez, on veut changer le « c'est pas pour vous » au « pourquoi pas ». Mais pourquoi n'irais-je pas au musée? Mais pourquoi n'entendrais-je pas telle musique?
Le livre est encore la clé de voûte de la culture à l'heure des écrans. La lecture par rapport au fait de regarder, est-ce encore prépondérant dans la formation de l'honnête homme et de l'honnête femme aujourd'hui?
Oui, parce que quel que soit le support, c'est pour ça que il va falloir réfléchir beaucoup plus directement qu'on ne l'a fait au numérique, parce que ça donne des pouvoirs gigantesques. Et donc, évidemment, pourquoi la lecture? Parce que la lecture, c'est une coopération. C'est-à-dire, quand vous lisez, vous coopérez avec l'auteur. Vous ne consommez pas, vous co-créez. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, l'émancipation. Vous créez en tant qu'être humain. Vous vous agrandissez. Vous dites et vous réfléchissez. Vous avez la distance qui permet de réfléchir. L'image est complètement immédiate. Et dans ce monde de l'accélération, vous avez une sorte de repli qui vous permet de vous former votre jugement et à ce moment-là d'être citoyen. C'est vraiment l'école de la citoyenneté.